prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, avant la chute.
Je vous invite à ouvrir votre Bible. On va faire deux lectures ce soir. Alors, la première, nous allons la suivre, la lire et la faire dans le livre de Paul aux Éphésiens. Paul aux Éphésiens. Chapitre 4 et au verset 17, s'il vous plaît. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. On relit et on reprend le verset 31, s'il vous plaît, même chapitre. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà pour notre première lecture. La seconde, nous allons le faire dans le livre de la Genèse. Alors, il va falloir tourner nombre de pages dans notre Bible. Chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. Et le verset 31, Genèse 1er, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Voilà pour la situation de notre méditation ce soir. Nous avons, dans notre premier texte, entrevu l'ombre de l'humanité dans les premières paroles que nous avons lues. Et puis, ce flash de lumière où Dieu s'adresse à l'homme pour l'inviter à faire tous ses efforts, les efforts de la foi, pour changer, pour qu'il devienne un homme nouveau. soyez bon, compatissant, ne vous mettez pas en colère, ne dites pas ceci, etc., etc. Voilà. On ne peut y arriver naturellement qu'avec la collaboration et l'aide de Dieu. Et puis, nous avons fait cette seconde lecture dans l'Écriture, et nous ouvrons, en effet, eh bien, le côté lumineux de la création. Je dis bien, les splendeurs de la création. Oh, c'est vrai que ça ne va pas durer longtemps, parce que l'obscurité va s'abattre très rapidement sur ce que Dieu a fait, mais ça serait intéressant, et c'est intéressant de prendre en considération eh bien, ce qui a conduit notre monde, celui que nous connaissons, dans lequel nous vivons, auquel nous sommes tant familiarisés, puisque il n'y a pas grand-chose qui nous étonne dans le mal, peut-être davantage étonné du bien. Mais une chose qui est certaine, c'est que la question que nous aimerions poser, que nous allons partager ensemble, mais qu'en était-il avant la chute de l'homme? Ça, c'est intéressant. C'est intéressant et nous allons voir à travers différentes pistes eh bien, qu'il y a probablement certainement eh bien, cette voix et cette parole de Dieu qui nous entretient et qui nous montre le chemin. Vous avez remarqué avec moi, et je le relis, je le rappelle, il nous est dit dans notre deuxième texte de Genèse, « Dieu vit que tout cela était bon, il vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Ça, c'est le verdict, c'est la satisfaction divine qui nous est donnée. Et si nous passons aussitôt à ce que nous constatons aujourd'hui, eh bien, comment reconnaître dans notre temps, aujourd'hui, dans notre monde, et l'humanité que nous partageons forcément, cette déclaration de satisfaction divine? Est-ce que Dieu est satisfait de ce qu'il voit aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut dire, eh bien, c'est toujours très bon, c'est formidable, c'est parfait, les hommes sont merveilleux, je suis honoré d'avoir donné carrière et vie, eh bien, à cette créature qui est sortie de mes mains, de mon génie créateur. Je vous ferai remarquer dès l'abord que nous n'avons pas lu ceci. Cela était parfait. Ce n'est pas écrit. Cela était très bon. Toutefois, le très bon nous interpelle, parce qu'on pourrait se dire, mais si c'était très bon au début, pourquoi à la fin des temps, pourquoi dans notre monde et à travers toute l'histoire de l'humanité, des civilisations, des générations qui se sont succédées les unes des autres, eh bien, on ne peut pas dire que l'histoire nous dit que tout a été très bon. Tout n'est certainement pas bon. Alors, on a du mal à imaginer à notre niveau, lorsque nous considérons les choses, un œil sur la Bible qui nous dit que c'est très bon, et puis finalement, nos oreilles, nos yeux, nos sens qui sont ouverts sur un monde, comme nous le vivons aujourd'hui à travers ces cataclysmes, à travers ces guerres sanglantes, à travers ces épidémies et tout ce qu'il peut y avoir, alors on a du mal à imaginer, à vrai dire, eh bien, la splendeur de l'Éden. On se dit, mais alors je sais qu'il y a beaucoup de gens dans notre monde, peut-être fortunés plus ou moins, qui cherchent à retrouver un Éden sur la terre. Hein, peut-être dans certaines îles paradisiaques et avec naturellement les beautés de la nature, les splendeurs de l'Éden à l'aurore de la création. Je dis bien que ce que Dieu a fait, il n'y a rien à redire. Parce qu'à l'aurore de la création et au début de la carrière de l'humanité, eh bien, on peut découvrir dans la Bible que tout n'était que beauté, fraîcheur, et qu'il y avait quelque chose qui caractérisait le monde d'alors, c'était l'innocence. Je n'ai pas dit la sainteté, mais j'ai dit l'innocence. Et l'innocence, c'est quoi? C'est l'absence du mal. C'est l'absence de mal faire. C'est l'absence de penser mal. C'est l'absence, finalement, de ce qui est mauvais. Et nous sommes là, dans ce chapitre premier, et puis le 2, on va s'arrêter au 2, parce que le 3, c'est la catastrophe. Eh bien, au printemps de l'histoire humaine. Et le printemps, c'est l'éclosion. C'est la force. C'est tout ce qu'il y a, eh bien, ce que nous sommes en train de découvrir. Je ne sais pas, aujourd'hui, hein, nous sommes au cœur du printemps, ou nous débutons le printemps. Hein. On est le combien? Nous sommes le 19. Ah, il n'a pas tout à fait commencé, c'est dans 2 jours. Hein. Voilà. Hein, mais on est admiratif de voir les beaux arbres, hein, de voir la nature qui reverdit, et ça va exploser à un moment donné. Donc, c'est le printemps. Et pour saisir tant de perfection créatrice de Dieu, et autant la déchéance, en contrepartie la déchéance humaine, qui pourtant est sortie des mains de Dieu, l'homme est sorti des mains de Dieu, et quand Dieu l'a créé, il lui a donné toutes les prérogatives du bien, parce que Dieu n'a pas créé le mal, dans cet équipement qui est le bien, eh bien, il nous importe de nous placer dans le cadre de la foi. Et c'est là où il y a deux sortes d'hommes sur la terre. Il y a ceux qui croient, qui sont prêts à accepter les déclarations, la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit d'être, ce qu'il a fait, ce qu'il est. Et puis il y a l'autre partie, certainement beaucoup plus nombreuse, le monde athée, le monde de rejet de Dieu, et qui dit ben, « c'est pas possible ». C'est pas possible qu'il en soit ainsi. Alors il y a toutes sortes de philosophies, de théologies, de théories, enfin voilà, pour écarter finalement eh bien, ce que Dieu nous affirme, qu'il est créateur. Qu'il est créateur, et c'est par la foi que nous arrivons à reconnaître ça. Comme cela nous est bien clairement défini dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, pour les biblistes, eh bien, vous retrouverez cela, 11, verset 3, il nous est dit ceci, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde... » Ce que nous avons lu il y a un instant, que le monde a été formé, qu'il a été créé par la parole de Dieu, le souffle de Dieu, la parole de Dieu. Parce qu'il nous est dit, il nous est rappelé, Dieu dit, et les choses sont venues à l'existence. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et ça c'est important de le dire, et il nous est sollicité de croire. Nous sommes invités à croire et accepter ce qu'il nous est dit sans autre. Vous allez me dire, mais c'est être aveugle. Ben non, justement. C'est précisément le contraire d'être aveugle, que c'est par la mesure, c'est dans la mesure où nous croyons que nos yeux s'ouvrent. À partir du moment où nous refusons de croire, donc c'est de l'incrédulité, que là nous allons nous refermer sur les révélations, sur ce monde qui ne procède pas et qui n'émane pas de la matière, mais qui émane de l'esprit. C'est autre chose, c'est une autre dimension. Croire et voir. C'est ce que Jésus dira dans un fait qui est aussi grand que la création, qui est la résurrection, quand il dira à cette femme, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc on a bien compris ce soir, avant d'aller plus loin, il est bien question que ce que nous faisons, ce que nous entendons ce soir, lorsque nous lisons la Bible, et ce que Dieu veut nous dire, c'est que nous devons l'accepter par la foi, sans preuve et sans démonstration. Et c'est quand nous allons nous engager dans la foi que nous aurons la preuve et la démonstration. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Des choses, mais des faits aussi difficiles à concevoir dans un monde si rationnel que le nôtre, où nous avons quand même cette tendance innée à vouloir couper un cheveu en quatre, de vouloir analyser, de calculer, de dire « mais c'est ceci, par déduction ». Et le monde se perd dans toutes ces considérations, en pensant maîtriser. En pensant avoir la capacité de saisir, de comprendre et de réaliser. Je voudrais dire une vérité, c'est que le monde spirituel se reçoit dans le cœur et non dans la tête et non dans la raison et non par la raison et non par l'intelligence. Ça, c'est quand même la grande différence. Et depuis Éden, la terre a subi une profonde transformation dans hélas, le mauvais sens. Dieu avait transformé le tohu-bohu, le chaos, en création ordonnée et animée. Et nous nous apercevons qu'à travers le chapitre 3, tout est redevenu chaos et tohu-bohu. Peut-être pas dans les faits, finalement extérieurs, mais au niveau moral et spirituel, qui a entraîné naturellement des conséquences dans le monde matériel. On ne peut pas dire aujourd'hui que tout y est très bon. Ce n'est pas possible. On pourrait peut-être affirmer le contraire avec un peu de lucidité. Tout y est mauvais, voire même très mauvais. C'est le contre-pied de ce que Dieu a dit. Et ça, c'est la conséquence de la chute. Et la première observation que nous pouvons faire, c'est que lorsque nous parvenons dans le livre de la Genèse au chapitre 3, nous voyons la tentation, nous voyons la consommation ensuite, l'entrée en tentation, le péché, la consommation du péché, et il apparaît la réjection de l'homme. Et la nature va être profondément modifiée, puisqu'il nous est parlé que même ce monde végétal, y compris celui des animaux, mais je parle du monde végétal, eh bien, il y a poussé des ronces et des épines. Vous savez ce qu'il dit, hein ? Oui, des ronces et des épines. Et quels que soient les niveaux de la vie, eh bien, il y a des ronces et des épines. Si nous regardons du côté du monde animal et que nous prenons en considération ses hécatombes, sa cruauté, et que nous regardons également la nature, oui, nous sommes en pleine actualité aujourd'hui, la nature physique, le monde qui nous environne, ces catastrophes, que ce soit les séismes qui font tant de ravages, les éruptions volcaniques, les secousses et les tremblements de terre, les raz-de-marée, les climats mortels, et tout ceci et cela, tantôt un réchauffement, tantôt un refroidissement, et avec toutes les conséquences que cela a sur la vie des hommes, alors on ne peut pas dire que tout est bon et tout est très bon. Demandez aujourd'hui aux Japonais si tout est très bon. Au premier jour, il n'y avait rien de tout cela, et je voudrais l'affirmer parce que c'est quand même la parole qui nous l'enseigne. Alors vous me direz, mais j'ai une objection à faire. Alors comment expliquer les grands bouleversements dans les ères successives? Eh oui, parce que l'histoire de l'homme, c'est tout récent. Hein. Comment expliquer cela? Et si nous nous informons avec soit des livres ou des reportages, nous allons voir que notre monde, à force finalement d'informations, convainc les hommes que, bon, naturellement, il y a ceci, il y a cela, etc., etc. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que la Bible n'est pas incompatible avec la science, et la science n'est pas en opposition avec la Bible. C'est une autre vue. C'est une autre manière de considérer les choses, et le chrétien les considère dans la foi, ce qui lui permet de saisir et de comprendre, et de réaliser aussi. Alors, comment expliquer tout cela? N'y aurait-il pas une explication dans les 7 jours de la création? On en a parlé brièvement tout à l'heure. Le premier chapitre, le premier jour, la lumière et les ténèbres. Les deux existent, je tiens à le signaler. Le deuxième jour, la terre, que la Bible appelle le sec. Voilà. Le troisième jour, ce sont les eaux au-dessus et les eaux en dessous. C'est une bonne occasion pour vous de relire le livre de la Genèse, au moins les 3 premiers chapitres, peut-être avant de vous endormir ce soir. Donc, 3e jour, les eaux, le règne végétal. La nature a besoin de cet élément qu'est l'eau. Les végétaux, les animaux, les hommes. 4e jour, les astres. Tiens, c'est curieux. C'est curieux. Il y aurait certainement quelque chose à dire. Le 5e jour, la vie animale va apparaître. Le 6e jour, c'est l'homme. Vous avez bien compris que le 6e jour, 6, c'est le chiffre de l'homme, que nous retrouvons à la fin de la Bible sous tout simplement le signe multiplié 666, jour de l'homme. Normalement, il aurait dû y avoir un 7e jour, mais Dieu se l'est réservé. Il aurait pu être le nôtre, mais il y a eu le chapitre 3 de la Genèse qui a tout bouleversé, parce que nous devions passer du 6e au 7e. Et pour l'instant, nous sommes vraiment bloqués au 6e. Pas au 6e étage, vous l'avez compris, hein, mais au 6e, jour de l'homme. Et Dieu va le bénir dans cette dimension du 6e jour. Il va lui dire, multipliez-vous, remplissez la terre, et je vous accorde ma bénédiction. Mais Dieu a béni, hein. Dieu a béni abondamment. Alors, pour beaucoup, on se dit, mais est-ce que Dieu a travaillé 6 jours? Un 7e jour, 6 jours, vous savez, là encore, c'est une appréciation que nous devons observer à travers la foi. Parce que l'Écriture sainte nous dit que un jour, pour Dieu, est comme 1000 ans. Alors après, vous en tirez les conclusions, hein. Vous ferez ce que vous voudrez. Prenons les choses comme elles sont. Et qu'est-ce que signifie un jour pour Dieu, hein? Parce que son essence même, c'est d'être éternel. Je suis celui qui suis. D'ailleurs, dans toute la Bible, il est appelé l'Éternel. Voilà. Et il est appelé à sa fois l'Éternel, dès le début, et il est appelé le Tout-Puissant. Alors vous avez déjà quelques éléments naturellement pour poser les choses. Au soir du sixième jour, tout est prêt à fonctionner. Tu as juste appuyé sur le bouton et tout le monde s'anime. Aïe, formidable. Tout est bien, tout est très bon. Tout est très bon. Et voilà, la création va rentrer dans sa carrière. Une carrière bénie. Une carrière sous le regard de Dieu. Tout est prêt à fonctionner. L'humanité et la nature s'élancent dans cette vie, dans cette dimension terrestre. Et il y a des belles choses quand même. Hein, il en est resté des belles choses. Il faut quand même le reconnaître. Il y a le côté sombre, mais il en est resté aussi des choses qui sont le témoignage du génie créateur. Sur tout ce que Dieu a fait, eh bien, il a établi l'homme. Ouais. Il l'a couronné comme le roi de la terre. C'est vrai. Alors, tout le monde voudrait être roi, mais ce n'est pas de cette royauté-là. Dans Genèse chapitre 2 et au verset 15, il nous est dit que l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Voilà, c'est comme ça que Dieu a voulu que l'homme s'épanouisse, se réalise, se développe et devienne, selon sa volonté, eh bien, véritablement ce que Dieu avait déterminé. Cette détermination de Dieu au bonheur de l'humanité. Il y avait naturellement derrière tout cela une sage domination. Est-ce que nous pouvons dire que l'homme est sage quand il domine aujourd'hui? Mais à l'époque, c'était une sage domination et c'était une intendance avisée puisqu'il lui a donné à cultiver la terre. Vous savez que nous sommes tous des jardiniers? Oui. Bon, on a tous fait un peu de jardinage, même quelquefois des géraniums dans une jardinière. Mais voilà, parce que derrière, ça va beaucoup plus loin que le chat de pot de paille et puis voilà, ça va beaucoup plus loin que ça. Voyons quelques instants ce que fut Adam et sa position initiale en Éden. Ça nous aidera peut-être. Trop souvent, les hommes d'hier et d'aujourd'hui, et peut-être davantage aujourd'hui qu'hier, parce qu'il n'y a plus de respect et de notion d'un créateur, eh bien, on l'a souvent représenté sous les traits d'une sorte de sauvage, d'une brute à peine dégagée de l'animalité, à en croire la théorie de l'évolution, c'est ça, hein. Voilà, on était à ramper, on a commencé à marcher à quatre pattes, ensuite on s'est mis sur nos deux jambes, on est devenus des bipèdes, et puis on est monté dans les arbres, si vous voulez. Et on en a fait un intermédiaire entre le singe et l'homme. Ouais. Et on a pensé que, avec le temps, avec certains développements intérieurs ou extérieurs, eh bien voilà que cet animal est devenu un homme. Quoi qu'il reste beaucoup d'animalité chez l'homme, dont nous considérons qu'il est quand même, finalement, néanmoins un homme. Parce qu'entre les animaux et les hommes, il y a quand même une différence. Enfin, vous devez être certainement au courant de cela. Alors, quand on prétend le contraire, moi je dis, et je m'inscris en faux, c'est une absurdité, c'est une ineptie, c'est faux. Les animaux sont les animaux et les hommes sont les hommes. Et les hommes, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension, tant sur le plan physique que sur le plan moral. Et quant à dire la situation de l'homme sur le plan spirituel, il est appelé. Il n'est pas sans Dieu, il n'est pas rentré dans la dimension spirituelle, mais il est appelé. Donc, sur le plan du corps, sur le plan moral, et il est à craindre que nos réflexions nous portent à considérer les choses totalement à l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait l'impasse sur la création de Dieu et on dit maintenant, tout est sorti comme cela, l'accident, le hasard. Je reviens à ce que nous disions tout à l'heure, tout était très bon. Selon la conception de Dieu, l'homme a quitté le très bon pour s'acheminer vers le très mauvais. Écoutez, il n'y a pas besoin de faire une grande démonstration, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire et il suffit tout simplement de regarder l'actualité, ce que nous avons devant les yeux aujourd'hui. C'est quelque chose de terrible, ce que l'homme est capable. Même si il y a une raison, même s'il y a une intelligence, une réflexion dans certaines choses pour réfréner le mal, mais néanmoins, on en voit aussi les effets. La chute. La chute, c'est l'homme sans Dieu. C'est l'homme qui évacue Dieu, c'est l'homme qui congédie Dieu, qui dit à Dieu, eh bien, de toute façon, on ne sait pas si tu existes, et puis on déclare que de toute façon, tu n'existes pas et on peut faire sans toi. Souvenons-nous de ce que Jésus dira dans l'évangile de Jean, il dira, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, les hommes répondent en disant, mais tu sais, on peut bien se passer de toi, regarde ce qu'on est capable de faire. On est capable de faire des avions, on est capable de faire des bateaux, on est capable de faire des navettes spatiales, on est capable de faire des centrales atomiques, on est capable de faire ceci et cela. Ce que je disais récemment, je disais que l'homme est capable, il sait allumer le feu mais il ne sait pas l'éteindre. C'est ça le gros problème. Ouais, il ne sait pas l'éteindre. Alors, il semblerait que si l'on écoute les desiderata du monde d'aujourd'hui, dans notre monde moderne, eh bien, on est sorti du mauvais, de la condition primitive, à travers toutes sortes d'évolutions, et nous allons vers le très bon, et on croit à l'évolution, et on a appelé ça, en fin de course, l'âge d'or. Les hommes croient à l'âge d'or. Quand il n'y aura plus la mort, quand il n'y aura plus la maladie, lorsqu'il n'y aura plus la guerre, lorsqu'on s'aimera les uns et les autres et que nous serons sur la terre qu'un seul peuple. Eh oui, on avait déjà essayé le coup, hein, à Babel. Vous savez comment ça s'est terminé. Hein. Alors il faut reconnaître que l'homme a évolué en bien des domaines et il a certainement tiré parti des capacités que Dieu lui a données, mais il faut bien considérer, prendre en compte, hélas, que l'humanité du 21e siècle, c'est-à-dire notre temps, sur le plan moral, sur le plan spirituel, peut sans peine être taxé, quelquefois de brute animale, lorsque nous voyons ces sous-produits de l'intelligence humaine, tels que les camps de concentration et le reste, le racisme, et cet acharnement à vouloir finalement eh bien, gagner de l'argent au mépris de toute règle, de tout principe. Ça, c'est le pire. C'est le pire. Pourtant, il y a des lois. Il y a des constitutions, il y a des politiques, il y a toutes sortes de barrières, de garde-fous, on pourrait dire. Mais vous croyez que les hommes les respectent? Celui qui a le pouvoir. Et on arrive à une société de vices, une société de dépravation, de haine, de cruauté, et toutes sortes de choses semblables, dont l'orgueil et la jalousie est le moteur principal. Voilà. Alors si l'on considère l'aspect positif d'Adam en Éden. Dans Genèse, chapitre 1er, il nous est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. » Vous avez remarqué avec moi que la chose est trois fois répétée. Peut-on s'exprimer ainsi si Adam n'avait été qu'un animal sauvage? Ce qui voudrait dire que si Dieu l'a fait à son image, c'est que Dieu, je ne vous dis pas, je ne me permettrai pas de le dire. Déduction faite. C'est pour ça que l'homme qui ne croit pas devient odieux et blasphémateur. Voilà. Quelle image! Et il y avait quelque chose de spécial, de plus, qu'on ne trouvait nulle part ailleurs qui faisait de l'homme le reflet de Dieu, l'empreinte de ce que Dieu est sur la terre. Le mot « image » est à considérer dans son sens moral et spirituel et non physique. Oui, et je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu est sans corps. Dieu est immatériel. Il est esprit. Jésus ne nous le rappelait que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. L'homme est à l'image de Dieu dans sa nature intérieure profonde. Dieu est un être libre et il se détermine sans contrainte. Il a doué l'être humain de liberté. Et c'est ce qui fait qu'il nous respecte jusqu'au bout. Nous ne le respectons pas, mais lui nous respecte. Dans notre libre arbitre et dans nos choix. Parce que nous sommes sortis de sa volonté. Cette liberté, l'homme l'a perdue. Et vous savez pourquoi il l'a perdu? Parce qu'il en a abusé. Et il n'a pas fait de cette liberté, eh bien là, une réflexion devant certaines choses devant lesquelles il était confronté, mais il s'est dit, eh bien nous pouvons en abuser. Et c'est comme ça qu'il l'a perdu. Libre arbitre, son choix reste entre le bien et le mal. Autre observation, c'est que Dieu est amour. Vous savez, je prends le contre-pied de tous ceux qui sont contre Dieu. Ouais, Dieu est libre, Dieu est amour. Il a donné à ses créatures humaines la faculté d'aimer. Mais au lieu d'aimer ce qui est aimable, il a aimé tout ce qui était finalement eh bien, le contraire de l'amour. L'homme a préféré s'aimer en premier et d'aimer des choses qui sont indignes, qui sont immorales, qui sont sales et impures. Et il appelle ça amour. Dieu est saint. Il a mis dans l'homme la conscience de saisir et de choisir le bien, le juste, la vérité. À la chute, Adam, contre le témoignage de sa conscience, parce que lui, il savait, Dieu lui avait dit, tu ne toucheras pas à ceci. Et il avait donc sa conscience. Et elle fonctionnait, elle était totalement dégagée de la notion du mal. Mais il l'a fait aller dans le sens contraire. Et le sachant, trompé certes, mais il a opté pour ce qui était répréhensible. Et il a commis cette transgression, il a choisi le mal au lieu de préférence au bien. Alors voilà l'homme à l'image de son créateur. Voilà ce qu'il est devenu, ce qu'il en a fait, par sa propre volonté, en refusant de faire la volonté de Dieu. Eh bien finalement, il s'est trouvé confronté avec sa propre volonté, et c'est cette volonté qui l'a conduit jusqu'à maintenant. Vous avez lu avec moi dans Éphésiens. Il est dit des choses quand même qui sont assez particulières, parce que, permettez-moi, il nous a dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie en parlant des hommes. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, parce qu'ils ne veulent pas savoir ou ils refusent de savoir, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et ils se sont livrés à toutes sortes de choses. Voilà, ils ont voulu être libres, ils ont voulu faire finalement la démonstration qu'ils avaient une volonté à affirmer, ils l'ont affirmée, mais ils sont sortis du cadre dans lequel Dieu les avait placés pour leur bonheur. Alors l'humanité se dégrade. À sa création, l'homme avait une beauté et une perfection physique et morale remarquables. Moi, j'y crois. Il ne vous a pas dit grand-chose, mais je le crois, parce que nous le retrouvons dans d'autres passages bibliques. Son intelligence n'était pas déformée par aucun préjugé. Ils ont l'intelligence complètement corrompu. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens. Moi, je crois que chez Adam, il y avait véritablement, eh bien, quelque chose de bon. Le préjugé. Croyez pas que c'est quelque chose de mortel, ça. Préjugé, c'est juger avant de savoir, hein, tout simplement. D'être animé par des sentiments qui sont mauvais. Sa faculté de compréhension ne connaissait ni le doute, ni entrave. Et quand on suit les disciples d'Emmaüs, où Jésus sera obligé de dire à ses disciples, à des gens qui l'ont suivi, des gens qui l'ont vu, des gens qui l'ont écouté, des gens qui l'ont aussi aimé, mais aux hommes dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ce que dit la parole de Dieu, ce que dit Dieu, aux hommes dont le cœur est lent à croire. Je crois que chez nos premiers parents, il y avait une spontanéité. Il n'y avait pas autre chose. Et ça, c'est quelque chose à souligner. L'homme a perdu de vue celui qui l'a créé. Et ça, c'est le drame. Vous savez, des enfants qui n'ont plus leurs parents sont des enfants malheureux. On le sait. Des enfants qui ne voient plus leurs parents pour une raison ou pour une autre, entre autres pour la séparation ou autre chose, ce sont des enfants malheureux. Et l'homme qui ne voit plus Dieu, l'homme qui ne sait pas Dieu, l'homme qui ne croit pas Dieu, c'est aussi un enfant malheureux. C'est une créature, mais une créature malheureuse. Parce qu'il lui manque quelque chose au fond de son cœur. Il lui manque une dimension. D'ailleurs, il le cherche vainement dans toutes sortes de choses, appelant Dieu ce qui n'est pas Dieu, que la Bible appelle des faux dieux et qui nous amène tout simplement à l'idolâtrie. On en revient toujours à la même chose. Avec le temps, il a perdu cette notion de Dieu. Il ne sait plus qui est Dieu. Et même s'il existe, à tel point que des philosophes contemporains ont écrit que Dieu était mort. Dieu est mort. Dieu est mort. Mais il est mort pour eux, oui. Et eux, ils sont morts aussi. Mais il est vivant pour tous ceux qui croient en lui. C'est une tristesse. Sur le plan physique, en revenant à Adam, eh bien, je crois que son corps était harmonieusement développé. Adam ignorer ce que peut être la maladie ou les infirmités parce qu'elles sont venues après, avec la chute, naturellement. Son cœur ne connaissait pas la crainte ou la peur, ce qui nous préoccupe, nous, tous les jours, puisque le premier sentiment, la première émotion après le péché, c'était de répondre à Dieu « Où es-tu ?» Et Adam dira « J'ai eu peur, donc je me suis caché. Je suis nu aussi. » Donc, nous voyons qu'il ne connaissait pas ça, il ne connaissait pas l'inquiétude. Et c'est vraiment le combat de tous les jours. Nous luttons contre la peur, la crainte et l'inquiétude. Jésus a donné un beau message sur le serment sur la montagne. Ne vous inquiétez de rien. Que redouter de cette terre? Parce qu'il était maître. Il en était le maître et le dominateur. Il n'avait rien à craindre. Et Dieu lui a dit, tout est à toi. Jouis de tout cela. Donc il n'avait pas à éprouver, finalement, eh bien, ces sentiments que nous avons. Sa conscience, alors, était dans le repos et ne le tourmentait aucunement, comme nous, nous le connaissons. Le péché commis par désobéissance était une véritable explosion, nous pourrions dire. Quelque chose qui a surgi au fond de son cœur et qui a cruellement tourmenté sa conscience. Il a pris conscience, finalement, du mal et du bien. Ses yeux se sont ouverts sous l'inspiration du menteur qui lui a dit « Mais tu sais, tu ne crains rien, tu peux y aller. » Vous serez comme des dieux, vous ne mourrez pas et vous connaîtrez le bien et le mal. Mais alors, ils ont connu le bien et le mal. Ah, ça c'est sûr qu'ils l'ont connu. Parce que notre conscience, elle est tourmentée par des regrets, par des remords, par des amertumes, par de l'aigreur, par toutes sortes de choses. Voilà la prison dans laquelle nous sommes renfermés. Ce qu'Adam ne connaissait pas avant la chute. L'homme dans ses trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Par son esprit, il était en contact avec Dieu. Et il jouissait d'une douce intimité, il avait confiance et régnait ce qui ne règne plus aujourd'hui, dans sa pureté, dans sa vérité, c'est-à-dire l'amour. Ouais, tout simplement. Rien ne le séparait de son Créateur. Rien ne faisait entrave. Il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de montagne. C'était quelque chose dont nous avons du mal à nous imaginer. C'est ça le paradis. C'est ça l'Éden. C'est ça ce que Dieu voulait pour nous. Dieu avait donné à Adam une activité, on l'a vu, on l'a lu, cultiver et garder le jardin, activité qui dépasse certainement le sens et le cadre matériel de cultiver des légumes ou des fruits. Dieu lui avait donné cette activité dans le but d'assurer le développement et le conduire à un état de maturité spirituelle et morale et le préparer à recevoir d'autres tâches beaucoup plus élevées. Imaginez-vous que s'il n'y avait pas eu le péché et la chute, est-ce que nous pourrions pas imaginer que nous aurions été comme Jésus sur la grande montagne, dans ce phénomène de la transfiguration, sans devoir passer par la mort affreuse, la reine des épouvantes pour les hommes, avec la dégradation, la corruption de notre corps, et que nous aurions été enlevés, finalement, dans cette autre dimension? Ça aurait été extraordinaire, mais les gens ne peuvent pas s'imaginer une vie sans la mort aujourd'hui, c'est pas possible. Elle est partout. Et quand on meurt de mort naturelle, il n'y a pas que ça. Quelquefois, on donne la mort aux autres. C'est terrible. Et la vie n'appartient qu'à Dieu. Alors, nous retrouvons toutes ces vertus propres à Adam dans une personne unique. Parce que dans la Bible, il nous est dit, Corinthiens, Paul nous parle d'un vieil homme et d'un homme nouveau. Il nous parle d'un ancien Adam et d'un nouvel Adam. Vous l'avez lu dans la Bible, ça. Corinthiens. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme a commencé à marcher et à monter vers le ciel, il a raté la première marche. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais est-ce que Dieu nous a laissé en bas de l'escalier, en bas de l'échelle, en disant, ben voilà, tu as péché, c'est terminé, il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas de rédemption. Tu restes comme ça, une créature maudite. Non. Non, Dieu nous a donné une réponse. Et toutes les vertus dont nous parlons d'Adam, avant sa chute, eh bien nous les retrouvons dans une personne, et je le répète, une personne unique. Celui que Dieu a envoyé sur la terre, celui que l'on appelle le Sauveur, le Rédempteur, et il s'appelle Jésus. Son autre nom, c'est Emmanuel, Dieu contre nous. Non, Dieu avec nous. Non, mais je vois si vous avez de la réactivité. Pas de la radioactivité. Réactivité, pardon. Écoutez, regardez ce que dit Jésus dans sa sainteté parfaite. devant ses détracteurs dans l'évangile de Jean. Il dira, mais qui me convaincra de péché? Parce qu'il avait des ennemis autour de lui, et les ennemis, il les recrutait. Il se trouvait particulièrement dans ce qu'il y avait de plus religieux en Israël. Et ils ont essayé de le mettre à mal. Ils lui ont posé des questions captieuses. Ils ont essayé de le mettre dans des situations d'embarras au possible. Et à un moment donné, il se retournera vers ses détracteurs. Il leur dira, mais qui me convaincra de péché? Parce que Jésus est saint. Parce que Jésus est pur. Parce que Jésus est juste. Parce qu'il est Dieu. Voilà l'autre version. L'ombre chez Adam et la lumière chez Jésus. La mort chez Adam et la vie chez Jésus. Dans le livre du prophète Ésaïe, permettez-moi de l'ajouter, il nous est dit que celui qui devait venir pour sauver l'humanité est le prophète, sous l'inspiration de la vision de Dieu, pourra écrire ceci. Il n'a point commis de violence et il n'y a point en lui de fraude dans sa bouche. Il a été tenté, comme nous, en toute chose sans commettre de péché, rajoute le livre des Hébreux. Voilà le plan de Dieu qui a réussi. Et il n'a pas réussi pour Jésus seulement. Jésus a réussi à notre place pour que nous retournions dans cette condition initiale, à travers une porte qui s'ouvre que l'on appelle la repentance, à travers une démarche personnelle que l'on appelle le choix de la conversion. Je choisis de suivre Jésus et couronné, eh bien, d'une expérience profonde, spirituelle et morale, qui s'appelle tout simplement la nouvelle naissance. Voilà. Ce qui était parti dans le mauvais sens, Dieu a dit, maintenant je rattrape les choses. Et tout ça, ça s'appelle le salut. Dieu appelle tous les hommes à regarder vers Jésus, le parfait modèle, l'unique sauveur, seul capable de nous rendre toutes les prérogatives propres, ce à quoi nous étions destinés au départ. L'homme a pris la mauvaise direction. L'homme a écouté la mauvaise voix. L'homme a choisi plutôt de se mettre dans les ténèbres, de se cacher, que de venir et de rester dans la lumière où il était auparavant. Si l'homme n'avait pas sombré dans le mal, il n'aurait jamais connu le lent dépérissement de son être, que l'on appelle la maladie, que l'on appelle les infirmités, que l'on appelle la vieillesse, qui est suivie de l'agonie et qui se termine dans la mort. Tout ça n'existerait pas. Imaginez-vous une société où il n'y a plus d'hôpitaux, où il n'y a plus de gendarmes, où il n'y a plus de policiers, où il n'y a plus de ceci, où il n'y a plus de cela. Mais dites donc, vous allez me dire, bon, on s'ennuierait. Non, on s'ennuierait pas. Parce que finalement, ça n'existerait pas, et il y aurait d'autres choses qui existeraient. C'est parce que justement, toutes ces choses existent, que ça empêchait le reste du plan de Dieu d'exister et de venir au jour et à la lumière, pour notre plus grand bonheur. Ça, c'est certain. Je dis bien, quelle tragédie de la chute. Dans Romains chapitre 5, il est dit ceci au verset 12. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi. Conséquence de quoi ? Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce qui est extraordinaire, terriblement extraordinaire et dramatique, c'est que le péché d'un seul, parce qu'il est notre père de cette race, de cette espèce que nous sommes, nous les hommes, eh bien, nous avons été contaminés, nous portons les gènes, nous sommes finalement, eh bien, porteurs de ce qui a été. Eh bien, le drame d'Adam. Parce que, permettez-moi de vous dire, on n'apprend pas à un petit bambin à mentir. Il sait le faire. On n'apprend pas à être égoïste. On sait le faire. On n'apprend pas la vengeance, on sait faire. Et ça ne se lit pas et ça ne se découvre pas dans un manuel. On sait le faire naturellement. Hein. Car le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi la mort? Pourquoi il y a tant de convois funèbres tous les jours? Pourquoi il y a des milliers et des milliers de personnes qui, dans des situations épouvantables, eh bien, passent de vie à trépas? Voilà la situation. Et voilà l'ennemi que nous avons à combattre. Ce n'est pas l'homme, Mais c'est celui qui est à l'origine de tout ce gabegie, de toute cette décadence, de toute cette corruption. Et pourtant, nous l'avons invité à venir, nous lui avons dit maintenant, prends toute la place. On lui a dit, ça y est, hein, parce que ses armes d'attaque ou ses armes de séduction, c'est la jouissance. Et il sait très bien faire avec les hommes, le plaisir. Ou alors, c'est le contraire, c'est la souffrance, d'une façon ou d'une autre. Je termine sur cette conclusion. Il y a très longtemps, on l'a lu, la plus épouvantable des catastrophes s'est abattue sur notre monde à travers un homme, et elle s'est étendue à toute la race, l'entraînant dans un abîme de souffrance, de peine, de deuil, de condamnation, avec une cause, c'est tout simplement le péché. Alors quand on écoute le sage, dans Ecclésiaste au chapitre 7 et au verset 29, il est dit ceci, après mûre réflexion, il est dit, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, ouais, à l'origine, cela était très bon, il les a fait droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ils ont cherché beaucoup de détours. Il y a un mot-clé que j'aimerais vous laisser avant que nous terminions. Le mot-clé, c'est le mot « retour ». Revenir à Dieu. Nous donner, finalement, les clés pour rentrer tout à nouveau dans la maison. Parce que ça, c'est indispensable. Revenir à Dieu, comme le fils prodigue revient dans la maison de son père. Il ne revient pas n'importe comment, mais il revient. Écoutez-moi, je termine. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, que vous avez appris l'Évangile, que vous avez appris et entendu l'appel de Dieu, parce que ce soir, c'est un appel. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Nous avons besoin de nous dépouiller d'une nature qui s'appelle la nature de perdition du péché, et de nous revêtir de l'homme nouveau par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité, eh bien on revient vers le Seigneur. Voilà, on revient vers Dieu et on ne peut revenir vers Dieu que par celui qui a proclamé devant la face du monde et qui le proclame encore aujourd'hui, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne revient au Père que par moi. Voilà le retour. Alors que Dieu nous donne sa grâce. Et nous allons prier maintenant, les uns et les autres, et que Dieu nous bénisse. En tous les cas, le retour est toujours possible à celui qui croit. Et celui qui croit et qui veut, nous allons nous incliner quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta parole. Parce que c'est vrai qu'il est difficile... Eh bien, de prendre en considération, Seigneur, les choses de la vie de l'humanité du début jusqu'à la fin. Mais, Seigneur, tu nous as permis de prendre, en effet, Seigneur, cette considération ce soir et ainsi de réfléchir qu'il y a eu, en effet, Seigneur, de ta part, le très bon. Et l'homme, se séparant, te congédiant, eh bien, Seigneur, est allé vers le très mauvais. Mais tout à nouveau, Seigneur, tu n'as pas abandonné l'homme à son triste sort. Tu es venu vers lui, alors qu'il allait et qu'il va de plus en plus vers le très mauvais. Eh bien, nous savons qu'à travers l'Évangile, à travers un nom, le nom de Jésus-Christ, eh bien, tu nous appelles, tu nous rappelles qu'un retour est possible pour aller du très mauvais jusqu'au très bon. Et maintenant, nous savons que ça va beaucoup plus loin. Ce n'est pas le très bon que tu nous offres. C'est l'excellence, c'est la perfection, c'est l'éternité. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Jésus. Amen. Amen.